Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Armadito, donc un projet open source. Et pour cela, nous recevons François Deschelles.
Bonjour.
Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et Vladimir Collat.
Bonjour.
François, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement à nos auditeurs ?
Oui, d'abord, merci de m'avoir invité. Donc, je travaille pour la société TechLib, où je suis responsable du projet Armadito, donc un antivirus open source. J'ai rejoint la société TechLib à la milieu de l'année 2015. Avant, j'ai travaillé pour la société NovaIT et avant, j'ai travaillé pour le projet DAFI avec le laboratoire CVO de l'ESUA à Laval. J'ai avant certains projets open source dans des domaines différents de la sécurité.
Alors, justement, quid de l'historique de ce projet ?
Alors, l'historique de ce projet, j'avais la volonté de faire une vidéo représentative de l'historique guide du projet en utilisant Gours. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais je vais essayer de retracer un petit peu l'historique de la façon la plus factuelle possible. J'ai travaillé pour le projet DAFI sur un sujet qui était en partie déconnecté de l'antivirus. On va dire pendant la dernière année du projet, et c'était sur les questions de filtrage HTTP. En juin 2014, on m'a demandé de participer à la version Linux de l'antivirus, et c'est à ce moment-là que j'ai été, donc à environ 2 mois de la fin du projet, associé au développement de l'antivirus. Si on regarde l'historique Git, on voit en fait que l'historique a démarré le 13 juillet 2014 avec mes premiers commits. C'est là que j'ai commencé à bosser vraiment sur le code de l'antivirus qui à l'époque était uniquement une version Linux. Mon premier boulot en fait, ça a été d'intégrer les modules d'analyse qui avaient été développés dans le cadre du projet DAFI. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces modules d'analyse. Je vais peut-être vous dire simplement que actuellement le seul module d'analyse qui a été hérité, le seul code qui a été hérité du projet DAFI, c'est le module heuristique qui dans les sources actuelles s'appelle le module H1. Bon, alors retour donc mi-2014, je commence à bosser sur la version Linux du projet. Je fais les premiers développements pour essayer de faire quelque chose de modulaire, d'intégrant les différents modules. J'ai surtout fait du packaging aussi. Le projet se termine, le projet DAFI, c'est-à-dire son financement officiel, se termine le 31 août 2014. Et à ce moment-là, je commence à travailler pour la société NovaIT. Donc je travaille toujours uniquement sur la version Linux, je travaille à mi-temps. À ce moment-là, je travaille sur une nouvelle version de l'interface graphique, je commence à réécrire une partie du code. Le temps passe, je rajoute des fonctions, par exemple le fait que l'antivirus soit exécuté dans un serveur indépendant de l'interface graphique avec une interface IPC assez minimale. Début 2015, je travaille sur le portage de mon code sur CentOS, une version 5.2, donc très très ancienne, avec des gros problèmes au niveau de l'interface graphique, des versions de Qt, etc. Donc je fais une nouvelle version de l'interface graphique sur GTK. Le temps passe, NovaIT a des difficultés financières, je suis de moins en moins impliqué dans le projet, mais toujours sur la version Linux. Arrive la mi-2015, NovaIT est racheté à 100% par la société TechLib. Entre-temps, Depuis la mi-2014 jusqu'à, on va dire, le deuxième trimestre 2015, il y a en parallèle le développement d'une version Windows dans laquelle je ne suis pas du tout impliqué. C'est-à-dire il y a deux codes qui sont développés entièrement en parallèle. Les développeurs de la version Windows quittent Nova IT. Et il apparaît que avoir deux codes, une version Windows et une version Linux totalement indépendante, c'est pas forcément la meilleure chose à faire d'un point de vue économique. D'autre part, on se pose des questions d'architecture sur le code, dire de séparation, de modularité, etc. Le fait que Nova IT soit racheté entièrement par TechLib donne des nouveaux moyens, c'est-à-dire un peu à la mi-2015, on va dire davantage de possibilités. Donc en fait, à la mi-2015, on recommence le développement, mais basé entièrement sur le code que j'avais fait pour Linux. Donc code qui, encore une fois, date de l'été 2014. Et on bosse cette fois-ci à trois sur le portage de ce code sur Windows, sur l'ajout de la détection temps réel, sur une nouvelle interface graphique utilisant non plus Qt mais TechnoWeb avec Angular, Node.js. Si vous voulez, je vous raconterai un petit peu quelques détails là-dessus. Le projet qui initialement s'appelait Uru, comme il avait été décidé à la fin du projet d'AFI, change de nom, parce que le problème, c'est qu'il y a en fait plusieurs projets qui ont le même nom. Il y a Uru Mobile et il y a Uru l'antivirus. Et ça crée un peu de confusion. Donc, TechLib décide de changer le nom à juste titre. Et suite à des discussions, le nom de Armadito est retenu parce que c'est une tradition que les projets open source aient un logo et une mascotte animalière, que le tatou c'est un animal assez sympa, c'est l'idée de protection, de carapace, etc. Passe. Et finalement, donc le nom devient Armadito, qui en fait devient le nom officiel du projet en interne début 2016.
Armadito, ça a une signification particulière ?
Non, en fait, l'idée de départ, c'était le tatou. Le tatou, c'est un animal à carapace. Or, il se trouve que tatou, ça va pas bien pour les anglophones, parce que tatou, ça veut dire un tatouage. Et le tatou, l'animal, c'est en fait, en anglais, ça se dit armadillo.
Et armadillo. Le nom d'une protection logicielle bien connue.
Voilà. Et aussi le nom d'une bibliothèque C++ pour l'informatique scientifique. Donc, c'est pas très bon. Donc, on cherche un petit peu et on tombe sur Armadito. Alors, en fait, Armadito, c'est le diminutif de Armado, qui veut dire protégé, armure, etc. C'est un petit côté sympa. Ça rappelle un petit peu Armadillo, donc le tatou, voilà. Donc,
d'accord,
bon,
okay.
Mais c'est pas... Il n'y a pas derrière de signification... profondément pensé avec trois niveaux de récursivité.
Ok.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter la société TechLib en deux mots ?
Alors, la société TechLib, au début de son existence, a fait de l'intégration et de l'hébergement. Et la société TechLib avant le rachat de Nova IT, c'est-à-dire en fait fin 2013, début 2014, s'est orienté vers l'édition de logiciels, d'abord avec le projet GLPI. Vous connaissez probablement GLPI, donc logiciel libre de gestion de parcs informatiques. TechLib a été pendant très longtemps, depuis pratiquement les débuts du projet GLPI associé à ce projet, a fait beaucoup d'intégration et de services autour et a décidé à un moment de s'investir davantage et de prendre sur ses épaules le développement, la responsabilité du projet GLPI, en accord avec la communauté et de manière tout à fait ouverte. Donc aujourd'hui, le développement de GLPI est beaucoup sur les épaules de Techlib. C'était l'amorce du virage vers l'édition. Ensuite, il y a eu le rachat de Nova IT qui a rajouté des offres dans le domaine de la sécurité. C'était un peu opportuniste, mais ça correspondait à une volonté de changer de métier et de se diriger vers l'édition. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs branches dans Techlib. Il y a toujours la partie hosting, toujours la partie intégration. Il y a une agence web qui s'appelle By The Way. Et il y a la partie Techlib Édition qui est en développement et qui travaille sur GLPI, Kimios, une suite de gestion documentaire et des projets de sécurité, donc Uru Mobile, un Android sécurisé, dont vous avez déjà évidemment entendu parler, Fliv, qui est une solution de gestion de flotte de mobile Android avec, on va dire, une solution de sécurité légère, et Armadito Antivirus.
Tu peux nous donner un peu le breakdown, le nombre de développeurs totaux dans la société, alors le nombre de développeurs sur chaque projet, enfin.
Alors le nombre de développeurs totaux dans la société, c'est au jour d'aujourd'hui, ça doit être 12 si je me trompe pas. Le nombre de le breakdown par il se trouve que certains développeurs sont, on va dire, à cheval sur certains projets, et parce qu'il y a des intersections, il y a des intersections, par exemple, entre GLPI et Armadito, et des intersections entre GLPI et Fliv. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs qui sont à cheval sur plusieurs projets. Alors, c'est clair que c'est une équipe assez petite, vu le nombre de projets. GLPI, c'est un peu différent parce que GLPI a une grosse communauté derrière, donc en fait le nombre de développeurs est largement plus que le nombre de développeurs financés par Techlib. Pour les autres, l'équipe Armadito par exemple, c'est 4 personnes. Bon bah moi évidemment, Valentin Hamon, Ulrich Foster. Et 2 personnes qui sont pas entièrement sur le, qui sont pas à temps complet sur le projet, c'est Guillaume Bougard et Johan Klivinski. Je sais pas si vous voulez, je vous détaille à peu près la répartition sur les autres projets, mais voilà.
Ça donne une idée. Voilà. C'est pour voir si c'est un énorme éditeur ou si c'est une.
Non. C'est clair que c'est un petit éditeur. C'est un éditeur qui démarre et qui veut grossir et qui veut.
Lors d'un épisode précédent, on a un intervenant qui nous a montré l'investissement logiciel, l'investissement en nombre de développeurs qu'il avait fallu pour faire TrueCrypt. Et donc, ça a permis à nos auditeurs de faire une comparaison entre les moyens de TrueCrypt et les moyens d'Armadito.
Et c'était combien TrueCrypt?
Je crois qu'on n'a jamais su à la fin.
C'était plusieurs millions d'investissements aussi. C'était une douzaine de développeurs.
Ok.
À plein temps.
Sur plusieurs années.
T'es sûr que le chiffre était exact parce que c'était plus ou moins développé sous le manteau quand même.
Ouais, mais financé.
J'invite les auditeurs à réécouter l'épisode sur Veracrypt.
Mais d'ailleurs, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que on parle aujourd'hui d'Armadito alors qu'effectivement, je viens de regarder sur GitHub, c'est actif depuis 2014-2015. Il y avait énormément de commits à cette époque-là, et c'est vrai que le sujet, on n'en parle qu'aujourd'hui en 2016.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a importé dans GitHub l'historique du projet.
D'accord. Donc l'historique des commits privés.
Voilà. Donc l'historique Git, par contre, le projet ne date pas du jour où on a mis le truc sur GitHub. Okay. Pourquoi ? Parce qu'on voulait avoir quelque chose qui était dans un état décent, c'est-à-dire en particulier, on avait le problème de cette interface utilisateur. Qui nous a posé des soucis par rapport à Qt. On a un moment envisagé de faire Qt sur Windows et puis on a vu que c'était pas si simple que ça à packager, c'était lourd, c'était pas forcément la meilleure solution. On avait très peu de compétences, par exemple, sur Qt en interne. Donc, par contre, on avait des compétences sur Angular, sur Node.js. Donc, on s'est dit, OK, on fait une interface web. Et ça, on a commencé, en fait, à bosser là-dessus en décembre 2015. Donc, entre le moment où on a commencé à bosser dessus et le moment où on avait quelque chose qui tournait, il a fallu un petit peu de temps et on voulait pas avant sortir les sources. En plus, il y a eu la question du changement de nom. Alors, je sais qu'il y a eu des trolls sur Twitter, des gens qui ont dit « à grand coup de cède, ça, voilà ». Oui, effectivement, on assume, on a même publié le script qui a permis le changement dans le code source. On n'a pas honte, hein. C'est vrai que le projet, pendant un moment, s'est appelé Uhuru, avec une confusion entre Uhuru Mobile et Uhuru Antivirus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de confusion, puisque c'est Armadito Antivirus.
Et donc, c'est quand même un peu ambitieux de lancer un antivirus en 2016,
parce qu'il y a
des dizaines de projets. Alors, c'est quoi la promesse de ce nouveau projet, les objectifs?
Alors, les objectifs et l'apport. Il y a beaucoup d'antivirus sur le marché, c'est clair. Par contre, l'offre open source est beaucoup plus réduite. L'offre open source en matière d'antivirus se résume à Clamav. Clamav, c'est un moteur de détection. Il manque quelque chose. Par exemple, Clamav n'a pas de protection temps réel sur Windows. Et puis, il y a une autre question qui est la gestion d'un parc d'antivirus, c'est-à-dire la gestion d'un parc de machines avec un antivirus et pour permettre à un administrateur de parc de savoir où ça en est, quand il y a eu les dernières détections, sur quelle machine, de forcer des mises à jour, de forcer des déploiements de base, de détection, de contrôler tout ça. Et là, au niveau de la gestion de parc, au niveau de la console d'administration d'antivirus, solution open source, c'est un peu le néant.
Mais il n'est pas possible de contribuer à Clamav, puisque ça existe.
Si, il est possible de contribuer à Clamav. L'architecture de Clamav est un peu compliquée et ne facilite pas, par exemple, l'interfaçage avec une nouvelle interface graphique, interface utilisateur, l'interfaçage avec console administration, tout ça.
Donc en fait, c'est des problèmes d'architecture profonds dans Clamav qui fait qu'il vaut mieux faire quelque chose de nouveau que d'essayer d'améliorer Clamav.
Je dirais qu'on peut on peut envisager les deux, mais Clamav c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez peu modulaire. Les sources de Clamav c'est remonter des corrections de Clamav, des patchs pour par exemple pour la compilation Windows. Clamav, ça pose aussi certains problèmes. C'est que Clamav, par exemple, point de vue empreinte mémoire, c'est très lourd. Donc, notre approche a été de dire, on essaye de faire quelque chose de plus modulaire, de plus portable, et avec une interface utilisateur plus convivial que ce qui existe actuellement pour Clamav.
Enfin, Clamav, c'est quand même deux choses. C'est la lib Clamav, avec le flux de signature derrière, et puis le Clamav en ligne de commande lui-même. Le fait qu'il n'y ait pas de scan en temps réel, par exemple, c'est un détail. À partir du moment où la lib se compile sur n'importe quelle plateforme, on peut potentiellement s'interfacer avec.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein. Je veux dire, Armadito a un module Clamav avec du temps réel qui s'interface avec la lib Clamav, hein, bien sûr.
Après Clamav, je ne sais pas si, enfin, sans rentrer dans les détails, mais c'est aussi SourceFire acheté par Cisco. Donc, je ne sais pas aussi quel est l'avenir de Clamav, même s'il y a intégré dans beaucoup de produits de sécurité commerciaux comme Checkpoint, Netask, etc. Mais...
Oui, là, je ne sais pas. J'ai pas d'opinion sur la question. C'est vrai que ça peut être une question.
Enfin, c'est un autre débat.
C'est un autre débat, hein, voilà. Cisco, pour l'instant, sur Clamav, semble tout à fait jouer le jeu de l'open source. Hein. Il n'y a pas d'interrogation à ce niveau-là. Hein. Mais à côté de ça, je veux dire, vous avez aussi d'autres moteurs de détection. Je veux dire, Yara, par exemple, Yara, c'est un peu orthogonal à Clamav. Nous, ce qui nous semble, c'est que c'est bien d'avoir une architecture modulaire qui fasse la distinction entre les moteurs d'analyse et de détection et le noyau, l'interface graphique, l'interfaçage avec la console et l'administration, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai voulu développer depuis le début. Hein. C'était l'essentiel du code que j'ai fait quand c'était encore à l'intérieur du projet d'AFI. C'était quelque chose de modulaire où il y a des modules d'analyse, que ce soit Clamav, Yara, module heuristique, module PDF et d'autres, j'espère. Et puis il y a un antivirus qui a d'autres fonctions. Enfin, je veux dire, il y a un noyau qui fournit d'autres fonctionnalités qui sont l'analyse temps réel, la remontée d'alerte, la configuration, l'interface utilisateur, etc.
Ouais, c'est tout ce qui entoure le moteur de l'antivirus, quoi.
Voilà.
Et ce qui fait la force de Yara, c'est quand même les fameuses IOC, parce que Yara en lui-même, c'est juste un moteur de pattern matching. Mais oui. Le nerf de la guerre, c'est soit les signatures pour Clamav, soit les IOC pour Yara. Et là, en fait, comment vous vous positionnez en tant qu'éditeur? Parce que aujourd'hui, il me semble que les éditeurs antivirus commerciaux, ils ont des plateaux entiers de gens qui reversent du malware toute la journée. Et des gens qui se contentent de prendre les signatures virus total et de revendre des produits de sécurité basés là-dessus, ils commencent à se faire botter les fesses.
Oui, alors bon, côté virus total, on a peut-être un avantage, c'est que nous, on peut fournir notre moteur à virus total sans souci, hein, puisque notre moteur est entièrement open source, donc ça ne nous pose aucun problème, et que par rapport à d'autres éditeurs qui exploitent les choses virus total, nous, on peut être clean de ce point de vue-là.
Enfin, c'est pas le moteur qu'ils veulent, ouais. Hein, ce qu'ils veulent,
c'est sur les signatures, oui.
C'est que les gens contribuent en apportant eux-mêmes des analyses, des nouvelles signatures, etc. Et pas qu'ils vendent en fait l'accès, enfin qu'ils récupèrent le flux de signatures pour l'intégrer dans leur produit à eux sans faire aucun travail de R&D.
Oui, c'est clair.
Parce qu'il y a la valeur aujourd'hui, ce sont les signatures. C'est ça qui a de la valeur vraiment.
Ben oui. Alors. Ça, c'est clairement un problème dans le cas d'un antivirus open source. Même si on regarde Clamav, en fait, il y a les signatures Clamav officielles, il y a les signatures Clamav non officielles. Il y a des questions, par exemple, c'est quelque chose que j'ai toujours pas élucidé, c'était quelles sont les licences, par exemple, de redistribution des signatures Clamav. Il y a les règles Yara qui sont disponibles à droite et à gauche. Il y a des projets sur GitHub, par exemple, pour distribuer des signatures Yara. Tout ça, c'est clairement c'est un peu le nœud du problème. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de réponse toute faite. Hein. Je vais vous dire plusieurs choses. C'est que d'abord, on va s'appuyer sur les ressources disponibles dans les projets open source, Clamav, Yara. Pour VirusTotal, on va voir ce qu'on peut faire, sachant que, comme je le disais, nous, notre moteur, il est entièrement disponible et on le fournira à VirusTotal dès qu'il sera suffisamment bien packagé et nettoyé. Après, il y a la question de la communauté, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible, c'est un vrai sujet, hein, est-ce qu'il est possible de monter une communauté qui partage sous quelles conditions avoir des moyens de détecter. Et puis après, il y a la troisième étape qui est de monter des projets de recherche avec des financements, mais des projets de recherche qui, cette fois, sans insister, produiront des résultats open source disponibles sur la question de génération automatique de règles de détection efficaces.
Parce que ça, c'est aussi l'autre nerf de la guerre chez les éditeurs antivirus, c'est le faux positif. Un antivirus qui va détecter kernel32.dll comme un malware, c'est rédhibitoire.
Ah ben ça, c'est un gros problème. Hein. C'est un gros problème. Et c'est le problème, en fait, c'est je pense, une question ouverte aujourd'hui. Il y a ces fameux modules heuristiques, analyse heuristique, ça recouvre beaucoup de choses différentes, analyse heuristique statique, analyse heuristique dynamique. C'était une des promesses de DAFI de fournir des moteurs d'analyse qui soient efficace par rapport à la génération automatique de nouvelles versions de malware par polymorphisme, métamorphisme, etc. Avec l'objectif de nécessiter moins de mises à jour fréquentes des bases de signatures et des versions plus compactes de ce qui qualifie un malware. Or, il se trouve que ces modules heuristiques, ils ont un problème, outre le problème de la façon dont ils sont implémentés, ils ont un problème, effectivement, c'est les faux positifs. On voit par exemple Avast, ils ont un module heuristique, qui d'ailleurs est pas très très loin du module heuristique de Armadito, encore une fois directement hérité de DAFI, qui est un module de classification avec un algorithme de K-Nearest Neighbor sur des caractéristiques extraites d'un binaire. Alors les caractéristiques qui sont extraites du binaire pour notre module heuristique, c'est la table d'import. Pour Avast, c'est secret. C'est marqué sur leur page, ils disent mais on vous dit, les caractéristiques, c'est secret. Par contre, on a des fonctions de distance, etc. Et on a un algorithme de K-Nearest Neighbor, etc. Il se trouve que Avast, très probablement à cause de ce module de heuristique, ils se sont pris à certains moments des avalanches de faux positifs. Et ça, c'est clairement un problème. Alors, une réponse possible, c'est les listes blanches. Il y avait dans le projet DAFI module de liste blanche que pour l'instant on n'a pas réécrit, nécessitait clairement une réécriture. Pour l'instant on ne l'a pas. Le problème des listes blanches, c'est que vous avez des mises à jour du système. Vous prenez par exemple, vous voulez faire des listes blanches sur Linux. Super. Vous devez liste blanchée tous les binaires qui sont sur les dépôts de Ubuntu 12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 32, 64 bits, toutes les versions, etc., etc., etc. Utile que vous dire que vous avez besoin d'un module de liste blanche qui soit algorithmiquement très efficace, parce que sinon il va y avoir un gros paquet. Et en plus, ouais, il va y avoir un problème, c'est... comment vous les générez? Vous les générez à la volée? Vous êtes sûr que les listes blanches, elles sont cohérentes avec l'état du système, etc., etc.
Ça, c'est pas complètement infaisable. Par exemple,
oui, c'est clair.
Par exemple, la base des URL malveillantes sur Internet, elle est juste énorme, et avec des bloom filters ou des trucs du genre, on arrive à réduire avec un taux d'erreur. Le problème principal, c'est que Linux est un des derniers systèmes d'exploitation au monde à pas avoir de signature de binaire, mais ça, c'est un autre problème. Mais enfin, le problème des faux positifs, c'est pas qu'un problème technique, c'est aussi un problème humain, enfin d'avoir des fermes de QA, avoir des instances de toutes les versions Windows, tous les logiciels utilisés en entreprise, etc. quoi. Et ça demande aussi énormément de ressources. Enfin, la quality assurance de manière générale, hein, pas que les problèmes de faux positifs, mais aussi les trucs qui crachent chez les clients. Enfin, les clients qui ont des problèmes spécifiques parce qu'ils utilisent encore du VB6 ou des trucs comme ça, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus complexes à résoudre, enfin, qui ne passent difficilement à l'échelle.
Non, mais c'est clair que bon, il y a actuellement, hein, je veux pas vous raconter des histoires, etc. Hein, c'est clair que actuellement, par rapport à l'ambition du projet et par rapport aux moyens, il y a il y a encore des choses à faire. Hein. Mais bon, on est un projet open source ouvert, et je dirais modeste et raisonnable. Hein. Notre propos, c'est pas, on va pas dire aujourd'hui, on va révolutionner le monde de l'antivirus et faire une rupture technologique. Non, notre ambition, c'est d'être un antivirus open source correct, qui se compare de manière honnête aux autres antivirus, et qui offre aux entreprises, aux organisations qui peuvent se poser des problèmes par rapport à ce qu'elles ouvrent en installant un antivirus et une solution de gestion centralisée propriétaire, leur offrir une solution open source, auditable, qui tienne la route.
Et aujourd'hui, il y a des clients, enfin des entreprises ou des institutions.
Alors,
tu peux juste répondre par oui ou par non, hein, mais sans rentrer dans les détails.
Il n'y a pas d'installation en production. Il y a des installations en pré-production ou en test. Je vais pas vous dire chez qui, hein.
Voilà. Avec des résultats plutôt concluants?
Alors, avec des résultats mitigés, en sens que un de nos principaux problèmes actuellement, c'est l'empreinte mémoire. C'est lié en particulier à Clamav. On n'est pas concurrentiel par rapport à l'empreinte mémoire. C'est-à-dire on prend beaucoup, beaucoup trop de place. Il faut dire que Clamav, je pense, a été beaucoup développé dans l'optique serveur appliance, où finalement, la question de l'empreinte mémoire, bon, bah, c'est pas très grave. Si on a une appliance, si elle est censée faire que ça, bah, c'est pas grave. Si on a un serveur qui est censé faire que du filtrage de mails et d'antivirus, s'il prend beaucoup de mémoire, c'est pas très grave. Si on est par contre sur un desktop où on partage la mémoire avec plein d'applications, avec des applications qui consomment de plus en plus de mémoire, c'est clair qu'un antivirus, il faut qu'il se fasse le plus discret possible. Hein. Et un antivirus, aujourd'hui, l'empreinte mémoire, je crois que chez Kaspersky, c'est moins de 100 mégas. La moyenne doit être aux environs de entre 100 et 200 mégas. Et Nous, quand on est à tout chargé, hein, faut être honnête, on est à 450 mégas, donc on a un problème à ce niveau-là. Alors, on est en fait à deux problèmes. On a un problème qui est Clamav, et on a un autre problème qui est le module heuristique, qui, outre ses faux positifs, bouffe un max mémoire. Donc, dans la roadmap, hein, on a clairement réécrire le module heuristique, en l'éclatant le plus possible, en faisant quelque chose de plus, moins monolithique que ça l'est actuellement, et avec des extractions de caractéristiques beaucoup plus modulaires, avec des algorithmes de classification beaucoup plus modulaires, et surtout quelque chose qui bouffe moins de mémoire. Et après, on a sur Clamav, on a quelques pistes de, il y a des gens qui ont travaillé sur l'amélioration de l'empreinte mémoire de Clamav. Et puis après, il y a aussi Yara qui, bien qu'on l'a pas encore testé actuellement, mais il paraît que ça bouffe beaucoup moins de mémoire que Clamav.
Et donc, en termes d'architecture logicielle, il y a la performance est importante, mais il y a aussi la sécurité. Apparemment, l'intégralité du projet est développée en C. Est-ce que c'était pour des raisons de performance et d'empreinte mémoire? Je comprends qu'en Java, ça aurait facilement dépassé plusieurs gigas de RAM. Donc...
ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs problèmes. Et c'est clair. Et là, j'ai beaucoup apprécié hein, ton article sur les ouvertures possibles et ce qu'on aurait aimé voir et qu'on n'a pas actuellement, mais que j'espère qu'on aura un jour, dans pas trop longtemps. Alors, la question du C, c'est, par exemple, pour la protection de temps réel, en fait, il faut s'interfacer avec des API qui sont très bas niveau, des API kernel qui sont en C. Donc, de toute façon, tout à fait en bas, on a du C. La question de la performance, c'est à voir parce que en Java, par exemple, si on compare certains codes Java et certains codes C++, la différence de performance est peut-être pas forcément si énorme que ça. Après, il y a la question de l'empreinte mémoire. Mais il y a aussi la question de la sécurité. Et le problème, c'est on parse des formats de fichiers complexes, non totalement spécifié, avec plein de sous-entendus qui ouvrent la porte à plein de vulnérabilités, hein, comme on sait, et on parse ça en C, avec du code qui est sujet au buffer overflow, au stack overflow, etc., etc., sans aucune sécurité, et ça, c'est clairement, c'est un problème. Donc, quelles sont les réponses possibles? Écrire la totalité de l'antivirus dans un langage safe. Se posera à ce moment-là la question comment on s'interface avec les API bas niveau de protection temps réel et avec éventuellement d'autres API au niveau système. Il faut effectivement une des réponses, c'est sandbox. C'est clair, c'est absolument évident. Ça peut poser certains problèmes au niveau, par exemple, de la protection temps réel, parce que le processus d'analyse qui est en sandbox doit analyser un fichier. Il est en sandbox, il tourne avec des privilèges restreints, il doit analyser un fichier sur lequel il n'a pas forcément les droits. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut imaginer plusieurs solutions. Par exemple, si le fichier est suffisamment petit, il y a un processus avec des hauts privilèges qu'il charge en mémoire et qui passe la mémoire partagée au processus en sandbox. Ou sinon, on copie le fichier dans une zone dans un fichier temporaire. Bon, ça, c'est des possibilités. Après, il y a d'autres possibilités qui sont fait une interface entre le bas niveau en C et des modules d'analyse qui sont écrits dans d'autres langages plus sécures. On peut, depuis du code C, appeler du code Java, on peut appeler du Python, on peut appeler plein d'autres choses. À ce moment-là, se pose la question, évidemment, de l'empreinte mémoire. Mais c'est un compromis à trouver. C'est clair, hein, bon, il y a eu récemment les alertes là sur Norton Antivirus qui faisait du unpacking en kernel. Le commentaire là du projet zéro chez Google, c'était excellent. C'était peut-être ce n'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Et c'est clair, hein, c'est vraiment c'est pire que tout. C'est-à-dire bon, le degré ultime, c'est on fait l'analyse de format de fichier complexe et vecteur d'attaque en mode kernel. Après, l'étape d'après, c'est on le fait non pas en mode kernel, mais dans un process au privilège. Et puis après, si on veut vraiment faire les choses bien, on le fait dans un process sandboxé, bas privilège. Et alors ça, c'est clairement, ça fait partie de la roadmap. Hein. C'est des choses qu'il faut impérativement qu'on fasse. Je ne dis pas qu'on va les faire d'ici mois de septembre, hein, mais ce sont des choses qu'il faut qu'on fasse.
Hein. Sinon, tu les développes en OCaml aussi ?
Oui, oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Non, mais après, le problème, c'est que on va déclencher une nouvelle guerre de trolls, c'est-à-dire qu'après les trolls qu'on a connus, on va avoir les guerres de religion sur les langages de programmation.
Alors là, tu le fais en Go, tu n'auras aucun problème.
Ah ben voilà, c'est le début de la guerre de religion. Ouais. Non, mais c'est clair, hein. Il faut développer des parseurs de PDF, des parseurs de PE, des unpackers, etc. En C, fournir la corde pour se pendre. Hein.
Ah, surtout redévelopper from scratch alors qu'il y a déjà des librairies, ne serait-ce que pour des raisons de compatibilité, c'est mieux d'utiliser une librairie utilisée par d'autres.
Oui, bien sûr. Mais par exemple, si on regarde le PDF, là, PDF-Hume, c'est du C, hein, probablement assez facilement sandboxable, hein, puisque ça tourne en Chromium. Hein.
Oui. De toute façon, la sandbox, il me semble pas que le coût des droits d'accès soit un problème, puisque dans tous les systèmes d'exploitation, le contrôle d'accès, il est fait au moment du open. Mais si tu passes à un file descriptor déjà ouvert à un autre process.
Eh ben non. Je crois pas.
On va rentrer dans les détails techniques.
On va rentrer dans les détails techniques, mais sur Linux, par exemple, ça marche pas.
Passer un file descriptor via une socket et le processus qui reçoit le file descriptor peut lire et écrire dedans.
Oui, mais en fait, il y a quand même un contrôle d'accès. C'est-à-dire, c'est le contrôle d'accès, c'est au niveau du processus destinataire du file descriptor, je crois. Hein, j'espère de pas dire de conneries, et pas au niveau du process qui a ouvert le file descriptor. Et je sais que j'ai rencontré des problèmes à ce niveau-là au niveau du temps réel, et c'était c'est galère.
C'est dommage, je viens de fermer mon auto-entreprise, donc je peux plus être consultant indépendant.
Ah ouais, dommage. Hein. Bon. Mais les contributions sont les bienvenues. Hein. Qu'à faire une issue sur GitHub et puis on continue la discussion. Hein.
Aujourd'hui, ce dont a besoin Armadito, c'est d'avoir plus de contributeurs, plus de développeurs, plus de main-d'œuvre. Alors, pour quelqu'un qui pourrait s'y intéresser, quel est l'intérêt pour des gens qui peuvent être dans des écoles, pourquoi ils devraient contribuer et s'intéresser au projet Armadito ?
Ce qui peut intéresser les gens à contribuer. C'est une question dont je parlais tout à l'heure. C'est une des questions, c'est un antivirus administrable pour un parc, sur une entreprise, une association ou une entité qui peut se poser des questions vis-à-vis de ce qu'elle ouvre de son infrastructure et de ses données à des éditeurs. Voilà, c'est pas exactement ce qu'ils font. Après, un antivirus, c'est un vecteur d'attaque privilégié. Je crois qu'il y a eu un article pas mal de Jokson Corrett sur comment faisaient les antivirus. Le résultat était pas mal, hein. C'était allez-y, c'est open bar. Il y a pas mal de possibilités. Donc l'open source, encore une fois, c'est pas la solution, hein. Tout à l'heure, on parlait là de la question de la vulnérabilité de la glibc. C'est clair que on peut pas dire aujourd'hui, je suis open source, donc je suis auditable, donc je suis sûr. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est je suis open source, je suis auditable, donc je suis peut-être un peu plus facile à sécuriser.
Bah, j'apporte surtout de la confiance.
Et j'apporte de la confiance, c'est-à-dire, je peux vous dire que avec la quantité de personnes qui sont passées dessus, vous n'allez pas avoir de backdoor, vous n'allez pas avoir de fonctions cachées qui vont remonter des fichiers chiffrés vers un site dont je ne sais pas ce que ça fait. Et si on peut proposer une solution open source qui tient la route, hein, qui a des performances honorables, qui est administrable, je pense qu'on aura réussi notre challenge. Et pas évident, hein, encore une fois.
Ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un vrai challenge.
Ah oui, ça c'est clair. Alors après, comment contribuer ? Moi, ce que j'ai voulu, c'est que l'architecture soit ouverte, hein, c'est-à-dire que ajouter son module d'analyse, ça soit pas faire un fork du projet, se rentrer dans des trucs compliqués. C'est une interface claire, hein, une API. Améliorable, hein. Il y a pas très longtemps là sur GitHub, j'ai réorganisé les sources de façon à ce que tous les modules d'analyse soient dans des repos séparés, soient compilés comme des DLL chargés dynamiquement. Mais alors ça peut poser un problème de sécurité d'ailleurs, mais c'est pas une condition sine qua non. On peut tout à fait faire une version où, bien que les modules d'analyse soient entièrement self-contained, utilisent cette API, ils puissent être linkés statiquement avec le code de l'antivirus. Mais par contre, que ce soit facile d'interfacer un nouveau module d'analyse. Donc, une possibilité de contribution, c'est j'ai travaillé sur des modules d'analyse, sur des formats complexes, éventuellement dans d'autres langages d'ailleurs, ça serait une chose vraiment super intéressante. Est-ce que je peux facilement les interfacer avec Armadito et faire que mes modules soient utilisables dans un contexte d'analyse ou de protection temps réel ou dans un contexte d'analyse à la demande, et encore une fois, ça c'est configurable. Et voilà, donc ça serait une super contribution. Après, il y a les contributions, c'est tester le code, rapporter des bugs, trouver des backdoors qu'on a volontairement insérés dans le code, suivez mon regard, etc., etc. Et puis après, il y aura la question, hein, c'est les bases de signature, les bases de données pour la détection.
Les bases de signature, c'est quand même un problème majeur des antivirus.
C'est le nerf de la guerre.
C'est clair.
Et donc, c'est la limite du modèle économique. Et pour l'avenir, vous avez l'intention d'essayer de relancer des modes de financement. Ça peut être des choses beaucoup plus, entre guillemets, entrée de gamme, genre bénéficier du Google Summer of Code pour avoir des stagiaires.
Oui, absolument. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, en fait, on n'était pas encore vraiment ouvert, hein, c'est-à-dire le code n'était pas disponible. Hein, le code, il est disponible depuis le 31 mai. Hein, donc
c'est clair que maintenant... Oui, c'est pour ça qu'il faut en faire la promotion maintenant.
Voilà, exactement. Mais je vous remercie, et d'ailleurs, je compte sur vous.
je pense que cet épisode sera très écouté.
Ouais.
Alors, et qu'en est-il des autres projets entre la version Android?
Alors, sur Ouroo Mobile, c'est un projet très orthogonal. C'est un projet qui s'est greffé sur le projet initial d'AFI, hein, qui était un projet d'antivirus. Il se trouvait qu'après, c'est greffé dessus un projet de développement d'un Android sécurisé. Là-dessus, je ne vais pas trop vous en parler parce que moi, je ne suis pas impliqué dans le développement. Je peux vous dire que un des problèmes qui se pose avec un Android sécurisé, c'est que il faut que ça tourne sur une plateforme matérielle et que les constructeurs ne fournissent pas nécessairement dans des temps qui sont ceux du marketing mobile, hein, c'est-à-dire renouvellement de plateforme tous les 6 mois à 1 an maximum, ne fournissent pas ce qu'il faut pour sortir des produits qui n'arrivent pas en retard. Donc ça, c'est un des problèmes liés à Ouroo Mobile. Sur le projet lui-même, il est séduisant parce que je crois qu'il y a des projets similaires qui n'ont pas eu un succès technique immense. Donc voilà. Mais c'est un projet, encore une fois, qui est orthogonal à l'antivirus, en particulier Armadito pour Android, c'est pour l'instant non, pas question.
Ok, ben je crois qu'on a fait le tour.
Vlad.
Oui.
C'est l'heure de la
minute fail.
Alors, je rappelle rapidement le principe de la minute fail, c'est de présenter un incident passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais c'est pas du tout d'accabler les gens, et donc je ne citerai aucun nom et modifier quelques éléments. Donc, il y a quelques jours, et c'est vraiment il y a quelques jours, donc j'arrive un matin chez un client pour une réunion. À peine arrivé, c'est l'alerte, un PC a reçu un CryptoLocker par mail, l'utilisateur bien sûr l'a ouvert, et le CryptoLocker commence à chiffrer les partages réseau. Donc comme il n'y avait pas vraiment de cellule de sécurité dans cette entreprise, ma réunion est remplacée par une réunion de crise, et pas de cert, pas de SOC, donc on discute avec les personnes de l'entreprise, et donc je donne des consignes de base, couper le PC du réseau, retrouver le mail verrouillé...
Non, là tu donnes le prix maximum. Hein.
Non. Ouais, c'était gratuit, mais bon, je continue. Trouver donc le mail verrouillé, mettre le PC en hibernation, vérifier les logs des serveurs mail et proxy pour essayer de voir si d'autres personnes potentiellement avaient reçu le mail ou avaient téléchargé la charge utile. Et puis à la fin, donc quand tout était terminé, lancer les restaurations. Donc bon, tout se passe en quelques heures. Moi, je reprenais mon travail tranquillement, et puis je pars pour retourner au siège de la boîte quand je reçois un coup de fil. C'est de nouveau la crise, une nouvelle attaque d'un CryptoLocker, chiffre à nouveau tous les partages qui venaient d'être restaurés. Ah non, en fait c'est juste l'utilisateur qui a voulu récupérer son PC pour envoyer un dernier mail, et donc a forcé un peu la main de la DSI pour récupérer son PC, envoyer un mail et le connecter au réseau.
Ok.
Fail. Voilà, c'est...
Super.
C'est beau.
Oui, alors là, le fail, c'est l'utilisateur, ou le fail, c'est celui qui n'a pas su maintenir la procédure jusqu'au bout et qui a laissé l'utilisateur récupérer son PC et le rebrancher.
Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de procédure. Là, c'est un cas d'un contexte où il n'y a pas vraiment de sécurité, il y a juste une petite DSI. Je ne sais pas. L'utilisateur avait un certain nombre de galons, donc c'est compliqué.
Ah, donc c'est la faute de l'utilisateur. C'est donc les utilisateurs ne sont pas le maillon faible, sauf quand ce sont des informaticiens ou des VIP.
C'est ça. Ouais. Non, après, c'est compliqué.
Les responsables sécurité qui se donnent tous les droits.
Ouais. Après, c'est aussi, le pire des informaticiens.
Voilà. Une chose sur laquelle on discute pas beaucoup, c'est en fait c'est les dommages humains sur les personnes de ce genre de choses. Parce qu'en fait, une personne qui est à l'intérieur d'une organisation et qui se retrouve être justement le maillon faible et la personne par qui le mal est arrivé, Eh ben, en fait, c'est pas forcément quelque chose de très facile à supporter dans des petites organisations qui n'ont pas effectivement de cellules de crise, qui sont pas préparées à ça. Moi, j'ai eu contact comme ça, effectivement. C'était une organisation humanitaire et une personne, c'était une bénévole, qui s'est retrouvée, effectivement, être responsable, entre guillemets, de cryptolocage pratiquement.
Ouais, mais au final, c'est pas la responsabilité de l'utilisateur. Le responsable, c'est le criminel. C'est comme quand quelqu'un tire sur quelqu'un dans la rue avec une arme à feu. Enfin, le responsable, c'est celui qui commet l'acte. Donc, c'est le criminel. C'est pas
non, mais la minute fait, il a dépassé la minute.
Bon, bien, François, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Un grand merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous pour vos questions, vos remarques.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous début septembre pour un nouveau podcast. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.